Bonjour à toutes et à tous, curieuses et curieux, paysans et paysannes en polaire et en colère de rien. Vignerons, point de salut, bonjour et bienvenue, vous écoutez L'Onde Curieuse et c'est tant mieux. Aujourd'hui, alors que d'ici 8 ans, la moitié des paysans et paysannes partiront à la retraite, on se demande ce qui freine l'installation de nouvelles forces vives. Trop de normes, sans doute trop de femmes. 40% de nouveaux agriculteurs sont des femmes, trop de pauvres. 40% des agriculteurs et agricultrices sont en difficulté financière et 18% sous le seuil de pauvreté. Ou alors trop d'immigrés ou d'étrangers. Parlons des plus de 4600 étrangers détachés nécessaires aux travaux agricoles. Donc, comme je l'ai déjà dit dans cette émission, je ne suis Mercosur de rien, mais probablement de tout le contraire. À l'origine de cette émission, les témoignages d'une chevrière qui traverse de nombreuses difficultés pour s'installer et vivre de son métier, qui fait écho à tant d'autres mises en BD, notamment il y a déjà 3 ans dans « Il est où le patron ?», chronique de paysannes de Maude Benesi et des paysannes en polaire. Quelles sont les difficultés pour s'installer en tant que paysan et surtout en tant que paysanne? Quelles sont les problématiques spécifiques rencontrées par les femmes? Et quelles sont les initiatives solidaires qui existent et donnent envie de joyeusement continuer? On en parle avec nos 3 invités, Cécile Mathieu, qui est chevrière à Méras. Bonjour Cécile.
Bonjour.
Julia Louia, qui est chevrière à Chandolas. Salut Julia.
Bonjour.
Et Pierre-Yves Marais, qui est arboriculteur et producteur de fruits à Saint-Michel-de-Boulogne.
Bonjour.
Salut Pierre-Yves. Merci à tous les trois d'être là. On en parle dans un instant après l'agenda, qui ne sera pas présenté par Clara. Et aussi, il n'y aura pas de minute asso aujourd'hui, vraiment, mais quand même, un petit agenda. Et toujours Sylvain, derrière la console. Salut Sylvain.
Bien le bonjour.
Allez, c'est parti pour l'agenda. Alors, au programme de cet agenda, puisque j'ai mentionné la BD « Il est où le patron ?», chronique de paysannes de Maude Benesi et des paysannes en polaire, je ne peux que mentionner le projet photo qui a pris corps et page à travers un livre de photos qui s'appelle « Bergère » de Vanessa Chambard, qui est devenue elle-même bergère à temps partiel, à force de photographier 3 amis qui le sont. Il n'y a pas d'événement associé à ce bouquin, puisqu'il y a eu une rencontre qui est passée, c'était vendredi à la librairie du Tiers-Temps, mais allez jeter quand même un œil sur ce bouquin, il sera bien sûr en librairie et disponible à la Bibli Les Lunes, les samedis midi à la cantine Pop. Et tu veux ajouter quelque chose, Cécile?
Oui, c'est ça, il y a toujours les photos, l'exposition à la cantine Pop.
À la cantine populaire, donc allez-y, c'est tous les samedis pour manger à midi. Autre sortie dont on reparlera dans une prochaine onde curieuse, sur les traces des archéologues de Séverine Laliberté, une BD donc qui retrace l'histoire de la découverte passionnante des archéologues de la commanderie de Jalès, qui ont mis au jour les plus vieux plans architecturaux de l'histoire de l'humanité, les déserts quittes au Proche-Orient. Et c'est une BD initiée donc par une femme, ingénieure en archéologie, qui met en avant notamment des doctorantes en archéologie préhistorique. Bref, les femmes sont partout, elles sont bergères, archéologues et même pirates. Et oui, pirates. Bon, 63 femmes recensées dans le monde de la piraterie aux côtés de plusieurs centaines de millions d'hommes, certes. Mais c'est au programme ce soir à l'espace dédié de Pont du Sel à 18h30, puisque l'Université populaire de la Basse-Ardèche propose une conférence sur l'histoire des femmes pirates de l'Antiquité à nos jours et des Caraïbes à la mer de Chine. C'est Bernard Forerou, qui est écrivain alpiniste marin et passionné par toutes ces questions et ces histoires insolites, qui fera donc cette conférence. Il faut être adhérent à l'Université populaire pour assister à la conférence, mais vous pouvez adhérer sur place. C'est donc ce soir à l'espace dédié de Pont du Sel à 18h30. Tout ceci me fait penser à des réflexions bien plus vastes sur l'écriture de l'histoire qui résonnent avec les questions de Jean-Philippe Smadja. Pourquoi demeurent sous silence les luttes ouvrières, les personnalités féminines ou ethniques? Que souhaite-t-on lorsque le fait religieux, envahit les manuels scolaires alors que disparaît l'histoire quotidienne et sociale des humains? Eh bien, justement, il sera lui-même, Jean-Philippe Smadja, jeudi soir à la librairie du Tiers-Temps pour une conférence gesticulée qui s'appelle « Une autre histoire ». Il l'avait déjà faite il y a quelques années, en 2019 si je ne m'abuse, et elle est mise à jour et retravaillée là ces derniers mois. Il sera donc à 19h à la librairie du Tiers-Temps. Une conférence gesticulée, je rappelle, c'est un mix de savoir froid, c'est-à-dire analytique, théorique, et de savoir chaud, notamment fondé sur les expériences personnelles et collectives. Et ben c'est peut-être ce qu'on va faire ensemble dans quelques instants après la musique, autour de la thématique de l'installation des paysans et des paysannes, surtout sur notre territoire. C'est parti en musique.
J'allume mon poste de télé pour admirer ce qu'il s'y passe. Un milliardaire s'envoie en l'air, quitte l'atmosphère pour voir l'espace. J'troque son bol d'air et sa cuillère contre un petit verre sur ma terrasse. J'en ai ras le bol de tout ce béton, j'ai la folie des grands espaces. J'en ai ras le bol de tout ce béton, j'ai la folie des grands espaces. Mais qu'est-ce qui se passe dans nos petites têtes? On s'entasse tous comme des sardines dans les grosses boîtes que l'on conserve. Le petit poisson doit suivre sa ligne. Grosse boîte que l'on conserve, le petit poisson doit suivre sa ligne. Et puis merde, j'ai décidé de vivre au loin sur la colline. Vivre seul dans une maison, avec la vue sous ma raison. Je préfère vivre pauvre avec mon âme que vivre riche avec la leur. Si le blé me file du bonheur, je me ferais peut-être agriculteur. Grande ville, j'ai préféré me mettre au vert. J'ai plus de bonheur à vivre en paix que m'admirer au fond d'un verre. Je boirais l'eau saine de mon ruisseau plutôt que l'eau sale du fond de la Seine. Chargé en plomb et en histoire que la surface ne laisse plus voir. Je ferai des bandes pour m'éloigner, pour me retrouver face au miroir. Juste une seconde de vérité pour que mon passé coule sous les ponts. Je ferai des bandes pour m'éclipser, pour me retrouver face à que dalle. Juste une seconde de vérité pour contempler ce qu'on est tous. Et puis merde, j'ai décidé de vivre au loin sur la colline. Vivre seul dans une maison avec la vue sous ma raison. Je préfère vivre pauvre avec mon âme que vivre riche avec la leur. Si le blé me file du bonheur, je me ferais peut-être agriculteur. Soleil à l'horizon, ça fait longtemps que je l'attendais, la petite lueur de la raison. Une petite chanson au clair de lune pour réchauffer le cœur de pierre. Le grand retour à l'essentiel, le feu de bois éclaire le ciel. Le grand retour à l'essentiel, le feu de bois éclaire le ciel. La mélodie de la nature reprend ses droits sur la folie. C'est toute la vie qui nous observe, que l'on oublie au fil du temps. La mélodie, celle de la vie que l'on consume à chaque instant. Tous nos acquis s'écrasent au sol et j'ai choisi la clé des champs. Tous nos acquis s'écrasent au sol et j'ai choisi la clé des champs. Et puis merde, j'ai décidé de vivre au loin sur la colline. Vivre seul dans une maison avec la vue sous ma raison. Je préfère vivre pauvre avec mon âme que vivre riche avec la leur. Si le blé me file du bonheur, je me ferais peut-être agriculteur. Et puis merde, j'ai décidé de vivre au loin sur la colline. Vivre seul dans une maison avec la vue sous ma raison. Je préfère vivre pauvre avec mon âme que vivre riche avec la leur. Si le blé me file du bonheur, je me ferais peut-être agriculteur.
L'agriculteur de Ridan, issu de l'album Le rêve ou la vie, c'était en 2003 déjà, mais ça en fait rêver toujours autour de cette table, notamment Julia qui a proposé le morceau. Julia Loulia, donc, qui est chevrière à Chandelas, Cécile Mathieu qui est chevrière à Méras et Pierre-Yves Marais qui est arboriculteur et producteur de fruits à Saint-Michel-de-Boulogne. Vous êtes tous les trois ici pour parler notamment des difficultés d'installation pour les paysans et les paysannes et puis pour les problématiques spécifiques que rencontrent les femmes, notamment dans leur installation et aussi dans leur métier. Et puis voir ensemble quels sont les soutiens, les initiatives auxquelles, vers lesquelles les femmes peuvent se tourner, et les paysans également. Comme je le disais en introduction, cette émission est née justement d'un témoignage que, Cécile, tu as apporté sur tes problématiques, toi, rencontrées lors de ton installation. Donc, on va commencer l'émission par là. Est-ce que tu peux nous dire, voilà, quel est ton parcours?
Ouais. Moi, je suis arrivée en Ardèche il y a 5 ans maintenant, et c'était pour m'associer dans un GAEC, puis finalement ça n'a pas abouti.
Un GAEC. Alors on va tout de suite décrypter tout ce que c'est, hein, pour les gens qui ne connaissent pas GAEC.
Le groupement agricole et après je ne sais plus.
L'exploitation en commun, non ?
Voilà, c'est ça. Groupement. Et du coup, cette association n'ayant pas fonctionné, moi étant arrivée en Ardèche, je me suis dit qu'est-ce que je fais ? Et je me suis dit je me lance toute seule. Donc j'ai commencé avec deux chèvres et j'avais un espace qui finalement s'est avéré trop petit. Et donc et c'est là que le parcours du combattant a commencé, à trouver du foncier, sécurisé en fait. Trouver du foncier presque, c'est pas le plus compliqué, mais trouver du foncier sécurisé, c'est extrêmement compliqué parce que les gens acceptent qu'on vienne mettre nos animaux sur le terrain, qu'on passe, etc. Mais quand on commence à leur parler de signature de bail agricole, etc., là, il n'y a plus personne. Et d'ailleurs, je ne suis pas la seule dans ce cas-là. Hein. J'ai entendu parler de... Voilà. Il y a des bergers, ça fait 10 ans qu'ils vont de terrain en terrain. Puis une fois que le terrain est propre, hop, c'est bon, vous pouvez y disposer, merci. Et donc, moi, je me suis baladée et aussi beaucoup fait balader avant de trouver.
De trouver. Voilà. Et est-ce que c'est chose faite ?
Depuis ce matin. Un quart d'heure avant d'arriver à l'émission. Je viens de recevoir le bail signé du propriétaire. Voilà.
Ah, bah super, voilà. Une bonne nouvelle.
C'est
alors,
ça.
Julia, toi aussi, tu hochais de la tête, c'est-à-dire que c'est des difficultés auxquelles tu t'es confrontée ?
Eh bien, pour le moment, nous, ça fait 3 ans qu'on est installés, donc on est locataire...
À Chandelas,
on est locataire de la mairie. Donc là, on a une superbe chèvrerie, toute neuve, après 1 an de travaux, pour accueillir du public. Les chèvres sont bien installées, les brebis aussi, les chevriers aussi... La fromagerie aussi. Et donc, il y a 17 hectares en location avec la mairie. En revanche, toutes les surfaces de garrigue où parcourent les chèvres essentiellement, ça s'appelle des commodas. C'est des accords verbaux avec les propriétaires. Donc, voilà, c'est pas du tout sécurisé. Et quand on essaye d'organiser un peu plus de façon formelle... pour nous, oui, voilà, nous sécuriser sur de la durée, là, on se confronte à pas mal de problématiques. Il n'y a pas que le bail, il y a aussi des conventions pastorales. C'est des contrats sur 6 ans où, en fait, on a le droit de passage. Les propriétaires ont aussi l'usage qu'ils le souhaitent de leur terrain. Et en même temps, c'est convenu, tu viens à telle période, mais au moins, ça nous sécurise sur 6 ans. Mais même ça, en fait, c'est assez compliqué de conscientiser les propriétaires. Ça peut freiner. Donc, et c'est beaucoup de travail. Parce que, en fait, les garrigues, c'est beaucoup de propriétaires. Donc, si vous voulez un minimum de surface à faire signer les propriétaires, ben c'est très laborieux. Ça peut être des centaines de propriétaires.
Et est-ce qu'il y a des choses qui sont proposées ou qui sont mises en place justement pour faire évoluer ceci?
La convention pastorale, typiquement, c'est, ou même les AFP, ce sont des, c'est toute une organisation pour sécuriser le foncier des bergers, que ça reste des zones pastorales et éviter, ben, le constructible et que on puisse nous virer du jour au lendemain, quoi.
Moi, je suis en lien aussi avec la communauté de communes, la Ardèche Source et Volcans. Et du coup, c'est Claire Delorme qui s'occupe de ça. Ils ont fait, ils essayent d'être en lien avec les propriétaires et de les informer, surtout. Après, ce qu'elle disait, c'est qu'il manque de moyens humains, en fait, pour aller au bout de la démarche. Et puis c'est ce qu'ils disaient aussi, on ne peut pas obliger les propriétaires à accepter. Et du coup, c'est un travail sur le long terme, de prise de conscience de l'intérêt commun et collectif, en fait, que les propriétaires mettent à disposition de manière sécurisée leur foncier. Parce que ce qui m'étonne, enfin, il y a aussi une loi, en fait, qui demande à ce que les espaces soient entretenus par les propriétaires. Ça, on voit bien que c'est pas le cas. Et du coup ça permet bah, justement aux gens qui font du aux agriculteurs qui font du pastoralisme d'avoir un espace de travail et puis aux propriétaires d'avoir des terrains propres, et au bout du compte c'est plutôt gagnant-gagnant.
Et par exemple en montagne, ben c'est des choses qui sont organisées pour que justement les groupements pastoraux, en même temps c'est plusieurs troupeaux qui entretiennent les montagnes et donc ben ça permet d'avoir chaque année, chaque été les bergers qui reviennent et voilà, ils savent que ça c'est maintenu et ça serait super si ça pouvait se développer sur le territoire ardéchois, parce que quand même les garrigues représente un potentiel pastoral énorme. Et il y a aussi des menaces type projet photovoltaïque au sol qui représentent une manne financière tellement énorme que les propriétaires, bah, forcément, peuvent être attirés par ce genre de projet. 6 000 euros l'hectare par an, ça peut convaincre beaucoup de monde. Alors que les bergers, bah, on représente rien, quoi.
Donc il y a aussi, tu veux rebondir?
Non, après si ce n'est que l'Ardèche est un peu vite propriétaire en fait. 75% de la terre agricole en France c'est en fermage, ce qui n'est pas du tout le cas en Ardèche. Donc en fait c'est un département qui n'est pas du tout habitué à la règle du fermage, quelque chose qui fait peur. C'est un département de propriétaires, donc c'est une donnée supplémentaire ici pour s'installer en fermage, ça commence un peu à se développer. Mais ouais, c'est un département qui est pas habitué au fermage. Ce qui n'est pas le cas dans la Drôme. Dans la Drôme, c'est vraiment que des fermiers.
Et quelles sont les pistes d'évolution? Est-ce que les collectivités publiques peuvent justement agir?
Après, la piste de base, ce serait un droit d'usage à la terre. C'est-à-dire qu'en fait, il faudrait qu'il y ait une espèce de SAFER des terres pour les locations, en fait, qui disent que, mais qui partiraient des besoins. Ça, c'est quelque chose qui est super compliqué à mettre en place, en fait. Mais oui, ce serait une solution qu'il y ait un droit d'usage à la terre.
Et que la chambre d'agriculture aussi oriente avec des techniciens et qu'ils soient sur place, qu'ils aient le temps aussi d'avoir ce travail-là sur les communes, sur les collectivités pour organiser, parce que c'est laborieux. Moi, personnellement, j'arrive pas à trouver le temps pour trouver les propriétaires, les contacter et puis maintenir une relation avec eux pour qu'ils aient confiance aussi, c'est normal, mais c'est laborieux. Donc s'il y avait un peu quelque chose au niveau de la chambre d'agriculture pour nous aider à ça serait génial.
Oui, parce que c'est un vrai c'est un vrai casse-tête chinois, parce que justement les terrains sont tellement morcelés, c'est ce que vous disiez, il y a tellement de propriétaires, et du coup si on veut réussir à faire un espace cohérent, en fait il faut contacter 15 propriétaires pour avoir accès à
Alors le morcellement, c'est un débat, hein, parce que le morcellement s'est arrêté en France à partir du moment où on a supprimé le droit d'aînesse. Mmh. Avant, il n'y avait pas de morcellement, parce que le fils aîné, en général, récupérait tout et c'était pour lui. Donc c'est ce qui se passe là. Donc en fait, il n'y avait pas de morcellement. Le morcellement est né de ça. Et il y a un bouquin qui est sorti il n'y a pas longtemps d'Inès Léraud sur le remembrement, donc, qui a été à l'encontre du morcellement, qui a voulu remembrer les terres. Et on a vu ce que ça a donné. Donc en fait, le morcellement, ce n'est pas qu'un défaut. Quoi. Mmh. C'est un débat.
Oui.
Mais on a entendu qu'il y avait des pressions, en tout cas, à mener sur via la Chambre d'agriculture, dont les élections. Il y a les élections professionnelles, on le rappelle, là, jusqu'à fin de semaine, jusqu'au 31.
Minuit.
Ouais, jusqu'au 31 minuit. Alors, vous êtes deux à la Confédération paysanne autour de cette table. Qu'est-ce que justement la Confédération paysanne propose sur ces sujets-là, pour faciliter l'accès, à la fois l'accès au foncier et ce dont vous avez parlé?
La Chambre d'agriculture, elle pourra, comme l'a dit Julia, elle pourrait faire un travail d'accompagnement, mais en aucun cas, elle pourrait faire changer la loi. Donc après, même si on gagnait la Chambre d'agriculture, on ne pourrait pas obliger les propriétaires à louer leurs terres. Après, le droit d'usage, c'est quelque chose qui doit devenir une loi. C'est-à-dire qu'en fait, le problème de la terre, c'est ouais. ça, en fait. Donc après, les possibilités, quand on est à la Chambre d'agriculture, bon, y a quand même un travail à faire, qui serait peut-être un travail, en effet, de recensement des terres, ce qui a été entamé dans certaines com-com. Et par exemple, à Vaisseau, y a eu des terres qui ont été louées par la commune qui a acheté des terrains, ce qui est une très bonne chose, parce qu'en plus, les terrains sortent de la propriété privée pour aller vers la propriété commune. Et donc ça, c'est des choses à faire. La Chambre d'agriculture pourrait largement accompagner ce genre de projet.
Mmh. Et toi, tu parlais de chèvrerie communale. Mmh. D'ailleurs, c'est aussi, c'est aussi la collectivité publique qui prend, qui achète pour mettre à disposition.
Oui, eh bien, c'était une ancienne porcherie qui a été rachetée par la mairie en 2005.
De Notre-Dame de la Blachère, c'est ça?
Non, on est à Chandelas.
Chandelas.
Donc, la porcherie a été rachetée en 2005 et il y avait déjà des chevriers. Donc, ils ont maintenu l'activité chevrière. Et vu que le bâtiment était délabré. Il était des années 60, donc il fallait faire quelque chose. Le maire et le conseil municipal ont monté des dossiers et ont réussi à obtenir des subventions de l'État, du département, de la région. Et la mairie également a investi de sa poche pour refaire à neuf la chèvrerie. Mmh. Et pareil, ils rachètent des terres quand ils ont l'occasion. Moi, ça me fait aussi penser à... j'ai vécu dans les Pyrénées-Atlantiques et il y a beaucoup de... Après, voilà, c'est des terres de montagne, des communaux. En fait, justement, les mairies font en sorte d'avoir des espaces communaux qui laissent à disposition des éleveurs. Mais voilà, c'est en concertation avec les éleveurs pour une gestion commune des paysages, en fait. Et ça me fait penser également que je fais partie de l'association Bergigou, des bergers du Sud Ardèche, et que c'est une problématique générale pour nous, les bergers. On souhaite développer justement ce genre de fonctionnement pour nous sécuriser un minimum. Parce que voilà, comme tu disais, la plupart, même ça fait 10 ans qu'ils sont installés, mais c'est chaque année la même rengaine de dire je sais pas si cette année ils vont me laisser aller là, ou s'ils ont l'intention d'y mettre des chevaux, ou s'ils ont envie d'en faire autre chose, ou ils ont pas envie de nous voir. On est dépendant de ça, en fait.
Mmh. Parlons d'un autre axe, puisque tu parlais des difficultés d'installation, et c'est un vrai problème, difficulté d'accès au foncier et difficulté d'installation. Il y avait autre chose dans ton témoignage, c'était le fait, toi, d'être une femme. Alors j'avais mentionné dans l'introduction, il est où le patron chronique de paysanne, une forme de misogynie, de sexisme, toujours à l'œuvre. Est-ce que vous avez des témoignages à apporter, puis après on pourra parler de manière plus générale?
Bah, c'est ce que je disais tout à l'heure hors antenne, là, la petite histoire qui aurait pu très bien s'insérer dans la BD, où j'avais fait une annonce en disant que je cherchais une bergerie, et on m'a rétorqué, plutôt que de trouver une bergerie, tu ferais mieux de te trouver un berger. Donc c'est vrai que c'est pas toujours simple à encaisser. Et puis, même sur l'entraide aussi, il y a des choses qui sont très étranges, par exemple, sur le fait que quand on demande de l'aide à un homme, par exemple, pour enfoncer des piquets, parce que moi, je fais pas 1m95 et 100 kilos, quoi, eh ben, ça crée de la suspicion. Enfin, c'est toujours, voilà, il y a toujours quelque chose de cet ordre-là qui est implicitement pas clair, en fait, alors que...
Parce que aujourd'hui, quelle est la place des femmes dans le monde agricole?
De plus en plus de chefs d'exploitation sont femmes et même dans...
Là, on est encore à peine un quart, c'est ça? Un peu moins d'un quart, 20-25% selon les chiffres.
Au niveau des statuts, mais ça se féminise énormément. Moi, je l'ai vu, bon, c'était au niveau des salariés bergères en Pyrénées, mais c'était une majorité de femmes. Mmh. Et donc.
Dans les nouvelles installations, ce que je disais, les chiffres, c'est 40% de nouvelles installations, c'est des femmes qui souhaitent s'installer.
Bah, dans ma formation chien de troupeau, par exemple, on est 10 en formation et il y a 8 femmes.
Alors, est-ce que ça veut dire que les femmes se remettent plus en question et qu'elles veulent se former, peut-être ? Ou elles se sentent moins légitimes ? Ça, c'est aussi une des choses qui revient souvent.
Elles ont peut-être conscience des besoins qu'elles ont et elles osent y répondre aussi, peut-être.
Oui, puis c'est des initiations. Si elles se forment, c'est aussi qu'elles débutent. Donc, ça montre que c'est une nouvelle mouvance d'installation et de... Et puis...
Ça prouve qu'elles sont là, tout simplement.
C'est ça, oui. Et puis c'est toujours génial d'être en formation, de se retrouver ensemble et de pouvoir aussi partager nos expériences, même si c'est pas que pour la formation, c'est un ensemble. Mmh. C'est un outil hyper, hyper riche, en fait.
Ça fait sortir de la ferme aussi, parce que...
Et là, vous parliez donc des réseaux d'entraide, en fait, solidaires, qui existent un peu partout sur les territoires, notamment en Ardèche. On peut citer les CIVAM et notamment Frangine 07, qui est un réseau collectif, voilà, d'entraide. Alors, qu'est-ce que c'est? Est-ce que vous pouvez me décrire un petit peu ce réseau? Toi, tu en fais partie, Julia?
Eh ben, depuis que je suis arrivée, en fait, j'ai entendu parler... Je connaissais déjà les CIVAM et on m'a orientée sur Frangine 07 parce qu'ils organisaient des ateliers théâtre forum. Et donc, on était entre femmes et on traitait justement de notre vie d'agricultrice. Et je me rappelle que c'était vraiment super parce que on se comprenait de galères, de « Oh, mais toi, de toute façon, je te laisse pas conduire le tracteur, enfin, tu t'es pas capable. » Des choses, des situations qu'on a toutes vécues parce que on est une femme et que on n'est pas considéré pareil. Et... Mmh. Donc des situations qu'on essaye de traiter ensemble et voilà, pour un peu reprendre notre parcours, c'était super instructif. Et ensuite, des formations entre femmes sur la mécanique, par exemple, mécanique de temps, moteur à deux temps et mécanique automobile aussi. Mmh. Et c'était super.
Donc tout un programme. Donc c'est il y a une nouvelle salariée, Caroline, qui va s'occuper justement de remettre, de redévelopper un petit peu ce réseau Frangine 07. Dans la loi, légalement, quel est le statut des femmes dans l'agriculture? Pierre-Yves,
soit elles sont chefs d'exploitation agricole, auquel cas c'est elles qui sont exploitantes, et soit elles sont conjointes d'exploitation, c'est-à-dire qu'en fait c'est le mari qui est exploitant, et elles sont conjointes, donc elles cotisent moins et ça ouvre moins de droits. Mais tu disais tout à l'heure qu'il y avait maintenant le conjoint d'exploitation ne peut pas être plus d'un certain temps pour éviter justement que ça dure trop longtemps.
5 ans. On nous demande... de garder seulement 5 ans le statut de conjointe collaboratrice, et parce que c'est soi-disant pour notre précarité, mais on nous propose pas forcément beaucoup d'autres options et ça reste un statut quand même assez systématique quand on est installé en couple. On n'a pas beaucoup d'options.
Moi, ce que ça m'évoque, c'est aussi la tendance à vouloir faire grossir les exploitations, parce que finalement, pour avoir deux exploitants à temps plein, parce que même si dans les faits on est à temps plein, ça veut dire qu'on génère un chiffre, un revenu suffisant pour salarier deux personnes. Et ça implique aussi un système qui n'est pas toujours compatible avec la paysannerie aujourd'hui.
Pas forcément d'accord, Pierre.
Non, d'accord, parce qu'en fait, pas du tout. Parce qu'en fait, c'est ça un problème social, en fait. C'est-à-dire qu'en fait, on ne peut pas d'un côté défendre des conditions sociales exemplaires et ne pas accepter que les paysans n'aient pas la possibilité de payer leurs cotisations sociales. Donc, à partir du moment où on veut, enfin, nous, on peut défendre que les deux qui sera travaillent sur l'exploitation, quel que soit le statut, GAEC, ORL, aient suffisamment de rémunération pour pouvoir payer leur cotisation sociale. Et ce n'est pas défendre l'agrandissement des fermes. C'est défendre simplement une meilleure rémunération du travail et surtout une meilleure condition sociale. Il faut quand même revenir sur un métier qui, pendant des années et des années, a considéré que c'est ce qui arrive aux gens de ma génération qui ont commencé, c'est qu'ils ont commencé... j'ai 60 ans cette année, et c'est des gens qui ont commencé en étant ce qu'on appelait à l'époque... aide familiale et qui ont travaillé pendant des années sans aucune, n'étaient pas déclarés, rien du tout. Donc ils attendaient en général que le père parte à la retraite pour reprendre l'exploitation. Ils se retrouvent arrivés à 60 ans, ils n'ont pas leur trimestre parce qu'ils ont travaillé jeunes, hommes et femmes, confondus les deux. Donc on ne peut pas défendre un système qui rendrait les choses précaires. Il faut absolument défendre que la possibilité, alors moi je ne connais pas assez juridiquement par rapport à ce que tu disais tout à l'heure, mais qu'il y ait une possibilité d'avoir un statut qui permet de couvrir les frais sociaux de chacun des travailleurs et travailleuses de la ferme.
Alors je me suis sûrement mal exprimée, puisque du coup on a eu l'impression qu'on était en désaccord, mais je partais plutôt du constat des choses actuelles. C'est dans les faits aujourd'hui, c'est compliqué d'être deux exploitants rémunérés. Et effectivement, si on valorisait mieux le travail, et bien effectivement, on pourrait, enfin, il serait tout à fait normal de pouvoir être deux chefs d'exploitation quand c'est la réalité, en fait.
Il y aurait tant à dire. C'était très audacieux, très ambitieux, une émission de un entretien de 20 minutes sur ces thèmes-là, mais voilà, qu'on a commencé à aborder avec des propositions, des solutions. Donc il y a des réseaux d'entraide qui existent, notamment pour les femmes, mais pas que. Il y a aussi des possibilités de voter pour la Chambre d'agriculture, donc c'est jusqu'à la fin de semaine, pour essayer de faire bouger les choses. Merci à tous les trois d'avoir été là autour de cette table. Restez à l'écoute de Fréquence 7, puisqu'à 13h, il y a Haïku tout court, à 15h, le Telex, à 17h, la rediffusion de cette onde curieuse, à 18h, solidaire d'abord, tiens donc je crois qu'on y parlera d'agriculture. À 19h, l'écho du parquet, votre rendez-vous des danses folk et néo-trad, et à 21h, on finit en toute beauté avec Hexagone Jazz and Bee, qui sera consacré à Rhoda Scott, une femme qui joue de l'orgue Hammond, et laquelle, donc c'est la Barefoot Lady. Et c'est DJ Steph qui reviendra sur sa première session française enregistrée en septembre 68. Voilà, nous on se retrouve demain pour parler d'éducation canine. Et oui, ciao.